Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Ces auditeurs et auditrices, voici les journaux aujourd'hui. Le peuple indonésien doit comprendre l'essence de la commémoration de la journée des héros. Le président souligne l'importance d'un développement économique ouvert et inclusif. Voici le bulletin complet.
La voix de l'Indonésie. Les informations.
La journée des héros indonésiens du 10 novembre ne devrait pas seulement être commémorée rituellement ou cérémonieusement. Tous les Indonésiens devraient comprendre le sens de la commémoration. Il a été dit par le chef de l'organisateur de la commémoration nationale de la journée des héros 2017, Agustin Silsia Rosa, dans une interview spéciale avec la voix de l'Indonésie récemment.
Jadi dari situ hendaknya kita tidak hanya memperingati secara ritual seremonial.
Nous ne devrions pas seulement commémorer la journée, mais aussi comprendre l'essence que tout le monde était prêt à sacrifier le plaisir et la vie pour l'indépendance de ce pays. Les héros de l'indépendance éduqués étaient alors respectés par le colonialiste. Pourtant, ils ne sont pas restés silencieux. Ils n'ont pas seulement profité du privilège qui les méritaient, ils se sont battus pour l'indépendance. Agustin Silsia Rosa a ajouté « Tous les Indonésiens, en particulier les jeunes, devraient remplir l'indépendance qui a été gagnée par les héros qui ont combattu avant avec les choses utiles, l'indépendance du pays qui ont été donnée et comme une dette que tous les Indonésiens devraient payer aux héros de l'indépendance. » Président Joko Widodo est arrivé à Da Nang, le Vietnam, le vendredi pour assister au sommet de coopération économique Asie-Pacifique, sommet de l'APEC. Il a participé à la réunion du Conseil consultatif des affaires de l'APEC, dialogue et la réunion des dirigeants de l'APEC ASEAN, tenue le vendredi 10 novembre 2017 à Furama Resort, Da Nang, le Vietnam. Dans les réunions du Conseil consultatif d'affaires de l'APEC, le président a souligné l'importance du développement économique qui est ouvert et inclusif avant de surmonter les problèmes de l'inégalité dans un certain nombre de pays dans le monde. Par ailleurs, on considère que l'Indonésie a réussi à appliquer le système de développement inclusif par des programmes de protection sociale dans le pays. Cela a été dit par le vice-ministre des Affaires étrangères, M. Fahir, après avoir accompagné le président Joko Widodo à la réunion APEC ASEAN. L'Indonésie est considérée pour équilibrer et combine avec sourcil la croissance et l'équité. Selon le président Joko Widodo, le synergie peut se concrétiser dans un certain nombre de coopérations dans divers domaines, tels que le commerce électronique, le développement des ressources humaines, et la coopération régionale en Asie-Pacifique avec la zone de libre-échange de l'Asie-Pacifique. Selon le président, ABAC et ASEAN peuvent également aider l'APEC à façonner le marché intérieur entre zones afin qu'il ne dépende pas d'autres régions, communiqué de presse. Le président Joko Widodo a annoncé vendredi que Nurtanio avait été choisi comme le nom d'un avion N219 construit conjointement par PT Dirgantara Indonesia et l'Institut National de l'Aéronautique et de l'Espace, ou LAPAN. Joko a déclaré qu'il avait choisi Nurtanio pour honorer Nurtanio Pringgo Adisuryo, un pionnier de l'industrie aérospatiale indonésienne qui est mort en pilotant un avion aéro 4500 modifié en 1966. L'annonce faisait partie de la commémoration de la Journée nationale des héros qui tombe le 10 novembre et le soutenir de la bataille entre l'Indonésie et les forces alliées à Surabaya en novembre 1945. N-219 est la successeur de l'avion N-250 produit en 1995 lorsque l'avionneur indonésien IPTN était dirigé par B.J. Habibie qui allait devenir le troisième président de l'Indonésie. Les fonctionnaires ont prétendu que l'avion N-219 a été produit uniquement par des ouvriers locaux. Jokowi a déclaré que la prochaine étape à franchir après l'annonce de vendredi était de s'assurer que le N-219 pourrait être commercialisé au niveau national et international. PTDI a déclaré que l'avion est le meilleur pour desservir les vols intérieurs vers la zone reculée. L'Indonésie espère que le Forum de coopération économique d'Asie-Pacifique APEC reste un forum ouvert et libre. APEC doit également réaliser une croissance inclusive et continue à développer des économies innovantes en accord avec les développements technologiques. C'est ce qu'a affirmé le vice-ministre des Affaires étrangères Aïm Fahir avant le 25e sommet de l'APEC à Da Nang au Vietnam récemment. Il a déclaré que le président Joko Widodo participerait au sommet tenu le 10 et 11 novembre 2017. Aïm Fahir a déclaré que l'Indonésie a l'intérêt aux engagements qui sont directement bénéfiques pour le peuple indonésien. Selon lui, la Banque mondiale a prévu même la croissance économique des membres de l'APEC pourrait atteindre 6,2% cette année, si bien que l'Indonésie devrait avoir les avantages d'une économie inclusive et innovante. Les petites et moyennes entreprises ou MKM de l'Indonésie élargissent son marketing au Moyen-Orient et en Afrique, facilité par la création du bureau de Smexindo, la société mère des micro, petites et moyennes entreprises ou MKM, l'Indonésie, Bahreïn. L'ambassade de la République d'Indonésie au Royaume de Bahreïn, Nur Syahri Raharjo, a déclaré que le Bahreïn pourra être l'entrée principale et faciliter la pénétration des produits de PME de l'Indonésie au Moyen-Orient, le pays de Golfe et un en Afrique du Nord. Il a expliqué que la présence des bureaux de représentation de l'UMKM de l'Indonésie à Bahreïn plus tard pourrait fournir des informations complètes et claires sur les produits fabriqués en Indonésie ainsi que des informations sur les produits nécessaires dans la région. Ainsi, le commerce mutuel avec le pays, la région peut être réalisé et contribue également à renforcer les relations commerciales bilatérales entre les deux pays, ainsi que les fraternités de l'Indonésie et de Bahreïn. C'est sur Théorie, c'était notre journal aujourd'hui.
Chers amis, nous continuons notre émission avec le revue de presse. Nous commençons avec l'éditorial du journal Sindo, le jeudi 9 novembre, et en beau titre, « Garder l'harmonie de la nation ». Le gouvernement va bientôt former une nouvelle institution, le Conseil de l'harmonie nationale. Cela a été fait à plusieurs reprises par le ministre coordinateur pour les affaires politiques, juridiques et de sécurité, Wiranto. La mise en place de l'institution répond certainement à l'état d'harmonie considéré comme réduit. En fait, toutes les parties connaissent au cours de cette harmonie en Indonésie n'est pas créée par l'institution. L'harmonie est créée parce qu'il y a un esprit de respect mutuel et de haute tolérance entre les peuples de différentes tribus, religions, races et groupes swasara. L'étape de la création d'un Conseil national de l'harmonie peut être considérée comme l'une des étapes les plus simples. Le journal Sindo a écrit « Jusqu'à présent, les différentes figures de la communauté Sara s'assoient souvent ensemble pour maintenir l'harmonie. Avec l'institutionnalisation, on s'attend à ce que l'intensité de la position assise soit plus élevée et la qualité sera meilleure. On espère qu'il y aura une compréhension mutuelle entre les chefs religieux et qu'ils se comprendront mutuellement quel est le problème dans la société. Le journal Sindo espère que notre harmonie sera plus forte pour l'amélioration de la nation. Ensuite, l'éditorial Compass, le 9 novembre, a pour titre « Accélérer l'industrialisation ». La valeur des exportations indonésiennes s'améliore en raison de la hausse des prix des produits de base. La dépendance vis-à-vis des matières premières n'est pas profitable à long terme. La valeur des exportations d'huile de palme brute et de charbon a fortement augmenté de janvier à septembre 2017, respectivement de 41% et 50%. Bien que les exportations de produits de base recommencent à promouvoir la croissance économique nationale, l'expérience acquise dans le pays et dans d'autres pays enseigne à abandonner la dépendance à l'égard des exportations de produits de base. L'effet de la baisse des prix des matières premières se fait encore ressentir lorsque le prix des matières premières baisse. En 2013 à 2016, le prix a diminué de 30 à 50%. La croissance économique de l'Indonésie diminue. La baisse des prix des produits de base affecte les recettes fiscales, les industries de soutien et l'emploi. Le journal Compass considère que l'Indonésie a ressenti son impact sur l'économie au cours des 5 dernières années. Lorsque la source de la marchandise est épuisée, l'Indonésie n'a plus de pouvoir économique. L'accélération de l'industrialisation doit se poursuivre et être bien planifiée. L'Indonésie dispose d'un avantage comparatif et compétitif en raison des conditions géographiques. D'une population nombreuse et d'un jeune âge et d'un niveau de prospérité amélioré. Selon le journal Compass, il faut maintenant affiner les priorités et la coordination par le gouvernement. Le dernier, l'éditorial du journal Republica, le 10 novembre, a pour titre « Imiter les héros de la nation ». Le président Joko Widodo a conféré le titre de héros national aux 4 enfants de la nation qui sont évalués d'avoir contribué grandement à l'Indonésie. Ils sont chercheurs du Nusa Tenggara West, Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid, combattante d'Aceh, l'amiral Kemala Hayati, Sultan Mahmud Shah III, Riayat Desil Riau, et fondateur de l'Union d'Islam, HMI, Lafran Pane. Avec l'ajout de ces 4 titres, le nombre de héros nationaux indonésiens est aujourd'hui 173 personnes, se composant de 160 hommes et 13 femmes. Ceux qui détiennent un héros national sont ceux qui, de son vivant, commettre un héroïsme extraordinaire et le mérite pour la nation et le pays. Selon Republica, allons faire de ce moment de la journée des héros pour devenir à l'identité de l'Indonésie, que nous sommes différents, mais la différence est ce qui unit l'Indonésie. L'exemple est donné par les héros de l'Indonésie. Chers amis, c'était la revue de presse.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service international La Voix d'Indonésie sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Amis, on va écouter maintenant l'événement d'histoire d'aujourd'hui, 11 novembre. On va commencer le 11 novembre 1946, le début d'une conférence de Linggarjati. La conférence de Linggarjati est un pourparler entre l'Indonésie et les Pays-Bas, un Linggarjati Kuningan, l'ouest de Java, qui a produit un accord sur le statut d'indépendance de l'Indonésie. Le résultat de cette négociation a été signé au Palais Merdeka Jakarta le 15 novembre 1946 et ratifié par les deux pays le 25 mars 1947. En janvier, le 11 novembre 2004, la mort de Yasser Arafat à Paris. Son vrai nom, Mohamed Abdelraouf Arafat al-Koutoua al-Husseini, un artifiste et homme d'État palestinien. Yasser Arafat représente les Palestiniens dans les différentes négociations du pays et signe les accords d'Oslo en 1993. Il devient le premier président de la nouvelle autorité palestinienne et reçoit le prix Nobel de la paix en 1994 en compagnie de Simon Peres et Yitzhak Rabin. D'origine égyptienne, il a été le principal acteur de la lutte pour la reconnaissance de la Palestine. Premier président de l'autorité palestinienne à partir de 1976, hospitalisé depuis plusieurs jours à l'hôpital militaire de Clamart. On termine le 11 novembre, la journée de la construction de l'Indonésie. Le 30 novembre 2014 à Jakarta, la journée de la construction de l'Indonésie a été déclarée le 11 novembre. Et l'inauguration a eu lieu le 11 novembre 2014. La journée de la construction de l'Indonésie est une initiative de plusieurs personnalités nationales soutenues par des acteurs et des praticiens du secteur de la construction qui sont déterminés à contribuer au développement en Indonésie qui est vraiment qualifié et durable. La date à la fin de cette année peut être utilisée comme un élan pour évaluer le développement des bâtiments en Indonésie pendant un an. Ces auditeurs d'ici, c'était l'histoire d'aujourd'hui ce soir, l'édition le 11 novembre. À demain.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis, nous continuons notre émission avec la mise au point et en sous-titre, l'Indonésie encourage l'OIT d'améliorer la gouvernance de la migration des travailleurs. Le gouvernement de l'Indonésie encourage l'Organisation internationale du travail, OIT, à améliorer la gouvernance de la migration des travailleurs dans le monde. Comme rapporté le communiqué de presse du représentant permanent indonésien à Genève, qui était reçu par Antara à Jakarta, mercredi 8 novembre. Un tel encouragement est présenté par le directeur général des relations industrielles et du travail de la sécurité sociale du ministère des Affaires sociales, Hayani Rumondang, dans la 331e séance du conseil d'administration de l'OIT à Genève, en Suisse, mardi 7 novembre. Hayani a déclaré qu'une gouvernance de la migration des travailleurs étant équitable et efficace est essentielle pour assurer la protection des droits des travailleurs migrants. Compte tenu de la protection des travailleurs migrants est une question prioritaire pour nous, le gouvernement indonésien continuera à soutenir les efforts mondiaux notamment en renforçant le rôle de l'OIT pour améliorer la gouvernance de la migration de la main-d'œuvre à différents niveaux. Cette déclaration a été faite en présence du directeur général de l'OIT et tous les pays membres, les représentants des membres, des travailleurs et des employeurs du conseil d'administration de l'OIT. Hayani a ajouté que l'Indonésie soutient l'initiative de l'OIT à accroître l'assistance technique aux pays membres en développant des compétences pour les travailleurs migrants afin de les aligner sur la demande mondiale du marché du travail. Il a également souligné que l'Indonésie avait également mis au point divers programmes de formation pour améliorer les compétences et les aptitudes des travailleurs migrants indonésiens menés par 281 centres de formation dans diverses régions en Indonésie. Cependant, le représentant permanent de l'Indonésie auprès des Nations Unies, l'OMC, et d'autres organisations internationales à Genève, l'ambassadeur Hassan Kleib, a déclaré que le conseil d'administration avait approuvé le plan d'action de l'OIT pour une migration de main-d'œuvre juste et équitable. Le plan d'action fait suite à une résolution adoptée lors de la réunion de la Conférence internationale du travail, CIT, en juin 2017 et sera mis en œuvre au cours des 5 prochaines années. L'ambassadeur Hassan Kleib a ajouté que dans la mise en œuvre du plan d'action, l'OIT prévoit de développer une base de données ILOSTAT sur les migrations de main-d'œuvre dans différentes régions et se référant au modèle élaboré par l'OIT à l'ASEAN. Cela va dans le sens des efforts du gouvernement indonésien pour continuer à développer une base de données intégrée sur les travailleurs migrants afin d'améliorer la protection des travailleurs migrants indonésiens à l'étranger. Chers amis, c'était la mise au point.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter l'archipel Riau pour goûter la délicatesse d'escargot gongong. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la voix d'Indonésie. Gongong est le nom de limaces de mer trouvées seulement dans les eaux autour de l'archipel Riau. Pour la population locale, cette limace de mer est ensuite cuite d'être une délicieuse cuisine. Donc, on dit que gongong est la nourriture typique des îles Riau. Les habitants font l'escargot gongong comme une source de nourriture alternative. Habituellement, ils cultivent des escargots d'une manière simple mais savoureuse. L'escargot gongong est très populaire non seulement par les habitants, mais aussi par les touristes. C'est parce que l'escargot gongong est un type de fruit de mer qui est faible en gras et riche en protéines. Habituellement, ces escargots gongong qui sont servis en les faisant bouillir avec des tranches de sel et de gingembre qui sont utiles pour éliminer les odeurs de poisson. Pour ajouter à la délicatesse, habituellement, l'escargot gongong qui a été bouilli est mangé avec du sambal, soit la sauce. Certains utilisent de la sauce aux arachides, de la sauce taocho ou de la sauce de soja. Il prend une façon spéciale de goûter de cet escargot gongong en utilisant l'aide d'un cure-dent afin que la viande puisse être retirée de la coquille. Comment le tirer aussi doit être d'une manière spéciale, c'est-à-dire suivre la forme de l'escargot coquille. Parce que si on tire négligemment, la viande se cassera et elle sera ratée à nouveau. Pour trouver des restaurants ou des stands de vente d'escargot gongon n'est pas difficile. Parce que presque tous les restaurants des fruits de la mer fournissent également l'escargot gongon comme l'un des menus. Le prix d'une portion d'escargot gongon est d'environ 25 000 à 35 000 roupias. En outre d'être transformé en plat d'accompagnement et de collation, l'escargot gongon peut également être fait comme souvenir lorsque vous visitez l'archipel Riau. L'escargot gongon frit. Il a un goût croustillant et délicieux. Vous rend accro quand vous le goûtez. Le prix par 250 g de craquelins d'escargot gongon ou l'escargot gongon frit est environ 60 000 à 90 000 roupias. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir. Un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie à Jakarta. Voici l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous présenterons le tissu tissé Tope Leleng provenant de Sulawesi du Sud. Bonne écoute. L'Indonésie est un pays archipélagique qui a diverses caractéristiques linguistiques et culturelles, telles que la langue, les vêtements traditionnels, y compris le tissu tissé. La tribu de Kajang est l'une des tribus vivant à l'intérieur de Makassar, Sulawesi du Sud. Cette communauté maintient et protège leur civilisation jusqu'au maintenant. Héréditaires, ils vivent dans le district de Kajang, la résidence de Bulukumba. Pour eux, cette région est considérée comme une terre d'héritage ancestral et ils appellent Tanatoa. Comme la tribu de Badui et de la province de Java-Ouest, la tribu de Kajang a aussi une caractéristique dans la vie quotidienne, à savoir habiller tout en noir, ou topé leleng, qui est tissé par eux-mêmes et utilise des colorants naturels. La couleur noire, selon cette philosophie tribale, a une signification comme une forme d'égalité en toutes les choses, y compris la similitude dans la simplicité. La couleur noire montre la puissance, la même degré pour chaque personne devant le Créateur. Tope Leleng, ou sarong noir, est un sarong kajang fait par des processus naturels et tissé par les femmes de cette tribu. Non seulement utilisé quotidiennement, c'est aussi une exigence quand il y a des cérémonies traditionnelles en Kajang. Il n'y a pas de rituel spécial pour faire un tissu tissé typique de la tribu Kajang. Le processus de fabrication du tissu tissé Kajang a un lien avec la nature. Les métiers de tissé utilisés sont l'héritage des ancêtres en bambou et en bois. Généralement, les mères en Kajang tissent sous la maison ou communément à parler siring. Sarong noir ou tope leleng fabriqué par le procédé traditionnel. D'abord, ils ont planté des feuilles de tarung. Après plusieurs mois, ils ont cueilli ces feuilles puis trempé quelques jours dans le bassin ou le seau. Les feuilles de tarung sont une sorte de plante qui produit une couleur noire qu'ils utilisent comme un colorant noir pour les filles. Non seulement le sarong noir, ils tissent aussi passapou. Passapou est un tissu noir utilisé comme bandeau. Après avoir traversé un long processus, ce sarong noir est alors rendu brillant, à l'ankadian appelé garosu. Les sarongs noirs qui sont brillants sont fabriqués en utilisant des coquillages de la mer. Selon la communauté de Kadian, le tisas est créé non seulement le tissu exotique, mais le tisas est un moyen qui enseigne toujours la communauté aux côtés de la nature. Non seulement cela, le tisas peut et aussi un effort pour maintenir la culture pour la société Kadian reste durable. C'est ce dit de tisse, c'était le programme La Nourriture en couleur aujourd'hui. À demain!
Rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Ses amis, bonsoir. L'édition du magazine musical d'aujourd'hui va vous fournir les chansons Dixon Scooter. On écoutera la première chanson, Logika Mana, ou Quelle logique ? Bonne écoute.
Yang ditanamnya nelayan miskin karena ikan yang ditangkapnya buruh pun miskin karena produk yang dibuatnya kuli pun miskin karena gedung yang dibangunnya sembako mahal karena kesulitan kurang tanahnya BBM import karena kaya bumi alamnya air pun mahal karena indah alam tropisnya ilmu pun mahal karena megahnya sekolah tercinta logika dari mana yang salah di logika dari mana yang salah siapa ini bukan Indonesia di dunia.
C'était la chanson qui est logique, chantée par Ixan Scooter pour définir l'artifice. Nous n'avons pas à faire des manifestations grâce à la musique. Nous pouvons devenir des artifices. La musique peut être un moyen de canaliser l'opinion. Comme Ixan Scooter, l'homme né en 1984 a donné sa voix à travers la musique. La liste discographique d'Ixan Scooter existe depuis 2001. À cette époque-là, il n'était pas encore un chanteur solo, mais il était le membre du groupe The Putty Band. Un nouveau nuancé d'artifice qui a retenu l'attention de beaucoup de gens est l'album Frequency Prancopticus, ou Fréquence des pièces à souris, qui est produit avec Indonesia Corruption Watch, ou La surveillance de la corruption en Indonésie en 2010. La suite, je vais vous donner la chanson d'Ixan Scooter intitulée Kereta ou le train. Bonne écoute.
Penjual minuman saset di antara termos yang selalu dibawa ke sana kemari. Bomo tua menawarkan nasi yang terbungkus koran bekas di jerat karet warna-warni. Banyak doa, banyak cerita, aku tak tahu ini apa, kesedihan ataukah bahagia. Yang aku temukan, kereta kini adalah laki-laki berseragam, bertubuh tegak yang bertampang sangat. Yang aku temukan, kereta kini mahal, makanannya pun mahal, apapun jadi mahal, semua serba mahal.
Got
Ces auditeurs, vous venez d'écouter une chanson intitulée Creta ou le train qui était chantée par Ixan Scooter. Cette chanson parlait de la condition du train s'améliore. Mais il s'avère que le prix des billets et de la nourriture dans le train est plus cher. Bien que ces œuvres contiennent des critiques sévères de diverses choses, les paroles et les arrangements de ces chansons sont assez simples, donc pas étonnant si sa présence est toujours attendue. Mais la renommée ne l'a jamais rendu à rang. Il est toujours amical pour saluer les citoyens indonésiens à travers les médias sociaux. Ses amis, voici les deux dernières chansons intitulées Sankara et Bapa. Merci à tous et au revoir.
Ada manusia yang paling ingin aku peluk, tapi aku malu. Tidak juga malu sebenarnya, hanya angku sebagai lelaki dewasa. Orang yang sepertinya tak peduli dengan apa yang kulakukan. Diam-diam bertanya kabarku, diam-diam menanyakan siapa wanitaku sekarang. Diam-diam menanyakan segala hal tentangku pada ibu. Yang paling ingin aku peluk, tapi aku malu. Tidak juga malu sebenarnya, hanya angku sebagai lelaki dewasa. Orang yang sepertinya tak peduli dengan apa yang kulakukan. Diam-diam bertanya kabarku, diam-diam menanyakan siapa wanitaku sekarang. Diam-diam menanyakan segala hal tentangku pada ibu.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Tanah indah yang bertabur cahaya surya biru, luas samudra berderet gunung teduh dan anggun. Bangunlah jiwanya, bangunlah raga. Kesedihan sirna semua bahagia. Tak ada di dunia negeri yang seperti ini. Aku lahir, hidup dan mati di negeri terindah di bumi. Sayu berbisik, desir daun-daun menemani datangnya sunyi. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, kesedihan sirna semua.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie. Sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Kau pernah katakan rasa rindu semua hanya padaku. Kau juga ungkapkan rasa sayang untuk yang kinkan hati ini.
Thank you.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id. Ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.